Merci Seigneur Jésus de m'avoir assisté tout au long du travail que j'ai effectué concernant le livre de Job. Merci pour les réflexions que je vais exposer qui émanent de toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que ton esprit me guide pour que j'expose ces réflexions de manière claire et explicite pour l'édification de mes frères et sœurs et pour mon édification personnelle. Amen. Donc, le dernier mercredi consacré à l'étude biblique, nous avons commencé à nous pencher sur le livre de Job. Nous avons ainsi pu découvrir dans ce personnage hors du commun un exemple pour nous. Appelé serviteur de Dieu, ce qui est assez rare dans l'Ancien Testament, il était un homme intègre et droit, craignant Dieu. Nous avons aussi pu voir comment il avait réagi face à la souffrance en restant respectueux de Dieu, en s'humiliant et se prosternant devant lui et en étant finalement reconnaissant envers lui dans une complète dépendance et soumission à sa volonté dont il a reconnu l'autorité. Mais nous n'avons pas vraiment parlé du problème de la souffrance de Job en tant que tel. Cette souffrance qui est le thème majeur de ce livre biblique. Avant d'en parler, nous allons lire dans un premier temps les versets 6 à 12 du premier chapitre de ce livre et par la suite nous lirons les versets 13 à 19 qui décrivent ce que Job a subi dans un premier temps. Donc on va lire les versets 6 à 12. Alors, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu, Satan ? D'où viens-tu ?» Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Amen. Alors, en lisant les versets 6 à 12, nous découvrons que la souffrance de cet homme est en quelque sorte le résultat d'un enjeu entre Dieu et Satan, qui est l'adversaire qui s'oppose et conteste toute la puissance de l'Éternel. Nous voyons se dérouler devant nos cieux une véritable scène dans le ciel. Il est tout d'abord question d'un jour, au verset 6a. Ce jour qui va compromettre la belle harmonie et de la vie merveilleuse de Job par un événement imprévu qui lui échappe. Ensuite, nous observons les fils de Dieu. Je pense que ce sont des anges, mais la Bible ne le dit pas. Nous observons les fils de Dieu venir devant l'Éternel, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, pour se présenter à lui. Et puis, vient également Satan, verset 6b. Satan est traduit en grec par « diabolos », mot qui a donné le diable en français, le diffamateur. Il faut savoir avant tout que Satan n'est qu'une créature parmi d'autres, certes méchante et perverse, mais limitée car créée contrairement à Dieu qui est et reste le maître absolu de l'univers. Dieu est le bien opposé au mal, le seul créateur et le seul seigneur du monde. Il n'a pas créé un monde dans lequel la maladie, les catastrophes et la mort étaient présentes. Celles-ci sont apparues au moment où l'humanité s'est détournée de lui. Il n'est donc pas à l'origine de la souffrance, mais il garde toujours un contrôle absolu sur tout. Il limite et oriente souverainement la souffrance. C'est pourquoi, bien que le mal infligé à Job émane de Satan, Dieu lui dit seulement ne porte pas la main sur lui. Les deux vérités suivantes, qui sont que Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, mais qu'il garde un contrôle absolu sur tout et qu'il limite et oriente souverainement la souffrance, ces deux vérités sont nécessaires pour que nous puissions faire face aux difficultés de la vie et les surmonter de manière paisible. Nous devons savoir que Dieu n'aime pas du tout nous voir souffrir, mais nous devons aussi comprendre que cela s'inscrit dans le cadre d'un plan qui échappe à notre compréhension. Quand Dieu demande à Satan d'où il vient, l'adversaire doit lui rendre compte de ses faits et gestes. Il a parcouru la terre et s'y est promené, ce qui peut être traduit par « rôder », et cela nous fait penser au fameux verset de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est vrai, le diable a des facultés de déplacement très rapides, mais il n'est pas omniprésent. Nous n'avons pas à nous imaginer que nous allons le rencontrer à chaque coin de rue, ni qu'il assiste à chaque réunion d'évangélisation. En revanche, notre divin Sauveur est toujours au milieu de nous, au milieu de deux ou trois qui s'assemblent en son nom. Matthieu, chapitre 18, verset 20. Quelle certitude nous avons là ? Puis, Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu est fier de son serviteur Job, et Satan répond du tac au tac au défi lancé par Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Et il ajoute, « Tu l'as protégé, lui et toute sa famille. Il possède de nombreux biens, tu l'as béni, donc c'est normal qu'il te soit fidèle. » C'est le verset 10, mais paraphrasé. En somme, Satan accuse Dieu de ne pas être très honnête dans son procès. C'est comme s'il disait, « Tu te vantes de Job par devant, mais tu le soudoies par derrière. » On ne peut pas imaginer insulte plus perfide et plus blessante. Le Dieu d'amour ne serait pas digne d'être aimé pour lui-même, mais seulement pour ce qu'il donne, et le Dieu de vérité tricherait dans ses affirmations. Cela paraît incroyable, et pourtant, souvent, il y a des chrétiens qui n'aiment Dieu que pour ce qu'il donne et non pour ce qu'il est dans sa personne. Frères et sœurs, faisons en sorte que cela ne nous concerne pas, car si nous aimons notre Seigneur que de manière intéressée, comme Satan semble insinuer que Job le fait, alors nous jouons purement et simplement le jeu de l'adversaire. Et cela est grave, car une telle foi est calculatrice, comptable, mathématique. Et imaginons que Dieu à son tour commence à calculer, à compter, alors nos péchés ne feraient pas le poids dans la balance et nous serions tous détruits en un instant, et ce ne serait que justice. Puis viennent les versets 11 et 12 où nous voyons le décalage significatif entre ce que le diable demandait au verset 11 et ce qu'il obtient au verset 12. Il voulait que Dieu frappe Job, il reçoit la liberté de le frapper, non de le tuer lui-même. Dieu accorde donc à Satan une marge de manœuvre limitée pour accomplir le contraire de ce qu'il avait envisagé. De plus, ce qu'il avait prévu vis-à-vis de Job finira par se retourner contre lui. En effet, Satan avait une profonde haine envers Job et voulait le discréditer en le faisant passer pour un usurpateur. Mais le résultat de ses assauts contre lui, c'est qu'aujourd'hui, Job est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire. Des millions de gens ont lu ce récit et ont été encouragés par son exemple. En livrant Job à Satan, Dieu confie son honneur aux mains fragiles de son serviteur, qui deviendra, nous le verrons plus tard, le champion de sa gloire face aux hommes, aux anges et aux démons. Dieu confie son honneur aux mains de Job, car il croit en Job bien plus que Job ne croit en Dieu. Il croit que son amour pour lui a été assez fort pour que Job triomphe, et Dieu savait ce qu'il faisait. Nécessairement, Dieu devait emporter le combat, mais il ne l'a pas emporté sans la participation de son serviteur. Et malgré tout ce qui est arrivé à Job, Dieu ne l'a pas éprouvé au-delà de ce qu'il pouvait supporter, comme cela est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et ça, 1 Corinthiens 10, verset 13, et ça, c'est une assurance pour nous lorsque nous souffrons. Donc, la gloire de Dieu est ici engagée. Et c'est un homme qui tient cette gloire entre ses mains, quoi qu'il n'en sache rien. Et heureusement que Job ignore le sort de sa souffrance. S'il avait su la vérité, Satan n'aurait pas manqué de dire à Dieu, « Maintenant, c'est par glorieux qu'il accepte l'épreuve. » En ce qui nous concerne, quand nous souffrons, nous pouvons, comme Job, ignorer la cause immédiate de nos douleurs, mais Dieu qui déteste le mal et la souffrance ne les permet que dans la mesure où cela portera un coup fatal aux intentions de Satan. Dieu a donc un plan pour les vaincre, mais comme Job, nous n'arrivons pas à percevoir les tenants et les aboutissants de ce plan. Il est trop profondément caché à nos yeux pour que nous puissions le saisir, même en partie. Nous sommes comme ceux qui se trouvaient autour de la croix où Jésus a été crucifié et qui secouaient la tête et disaient « Je ne vois pas comment Dieu pourrait tirer quelque chose de bon de tout cela. » Au verset 12, il est écrit « Seulement ne porte pas la main sur lui. » Nous voyons par là, comme je l'ai déjà dit, que le pouvoir de Satan est au-delà de ce que le Seigneur lui accorde, la possibilité de faire. Quoi qu'on dise un de nos cantiques, Satan ne peut jamais se déchaîner vraiment. Nous pouvons trouver déconcertant que sa chaîne soit parfois si longue, surtout dans le cas de Job, parfois dans le nôtre. Soyons pourtant rassurés. Il y reste rivé, et c'est le Seigneur qui tient solidement l'autre bout. Satan n'est pas plus tout-puissant qu'il n'est omniprésent. Au verset 12b, il est marqué « Alors Satan se retirera de devant la face de l'Éternel, muni de cette étrange autorisation que Dieu lui a donnée vis-à-vis de Job. Il va se livrer à sa sinistre besogne par la suite. » Et c'est alors que l'on voit comment Satan va s'acharner sur Job en lui enlevant d'abord ses biens et ses troupeaux, puis en lui enlevant dans un ouragan ses 10 enfants, tous morts en un seul coup. Puis vient la formidable réaction de Job au verset 20-22 que nous avons analysé et admiré lors de la première étude. Si on peut avoir les versets 20-22, c'est bien de les relire. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et après, et dit, Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle réaction après les épreuves qu'il a subies. Alors, voilà ce que l'on peut dire de ce premier passage, des versets 6 à 12, où nous découvrons la souveraineté de Dieu, les limites de Satan, les premières épreuves de Job et comment il a réagi. À présent, nous allons lire dans le chapitre 2 les versets 1 à 6. Alors, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans cause. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Voilà. Alors, dans ce passage, nous voyons qu'il y a de nouveau une scène dans le ciel qui voit parler Dieu le Tout-Puissant avec Satan l'adversaire. Cette scène est en de nombreux points identique à celle du chapitre 1, versets 6 à 12, sauf qu'au verset 3, Dieu ajoute que Job a tenu ferme dans son intégrité et qu'il n'a pas faibli, comme le diable l'avait prévu, preuve une fois encore qu'il se trompe et qu'il n'est pas tout-puissant. Et la fin du verset 3 montre bien que Dieu n'accepte pas de gaieté de cœur les souffrances de son serviteur. Il est écrit « Tu m'excites à le perdre sans motif ». Cela souligne à la fois la responsabilité de Satan qui a pris l'initiative du drame, en même temps que celle du Seigneur qui a, jusqu'à un certain point, accédé à sa demande. Sans motif, c'est-à-dire gratuitement. C'est un mot qui joue un rôle important dans tout le récit. Car pour l'adversaire, une piété gratuite est impensable. En revanche, une méchanceté non motivée le caractérise lui-même. Il fomente le mal pour rien, parce que telle est sa nature. Dieu retourne le terme contre lui. C'est comme si lui disait, tu prétends que Job ne me sert pas pour rien, mais toi, tu veux le perdre pour rien. Et le diable répond, chiche, littéralement peau pour peau. Mais étends ta main, trois petits points, et je suis sûr. Voilà les expressions principales que le diable emploie dans les versets 4 et 5. Quelle assurance semble avoir Satan ? Et pourtant, il va encore une fois se tromper, car Job aura résisté. Et Dieu laisse Job encore une fois, mais limite l'action de Satan à sa vie. Et encore une fois, Satan frappe fort, très fort, trop fort pourrait-on dire, comme le montre le verset 7. Comme le montre le verset 7, où il est écrit que Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et voyez avec quoi il doit se gratter, avec un tesson de poterie, comme nous le révèle le verset 8. C'est alors qu'arrive la dernière épreuve, sa femme l'incite à maudire Dieu. Verset 9. Décidément, Job aura tout eu comme épreuve. Épreuve matérielle, il perd tout. Épreuve affective, tous ses enfants meurent. Épreuve physique, sa santé est gravement atteinte. Épreuve psychologique, sa propre épouse est contre lui. Et nous le verrons par la suite, ses propres amis, ou pseudo-amis, pourrait-on dire, qui viennent pour l'accuser d'avoir péché, ce qui aurait provoqué ces épreuves. Alors, la question que tout le monde se pose est pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Au risque de vous décevoir, je dirais, je ne sais pas, car comme vous, je ne connais pas les plans de Dieu. Mais ce que je sais, c'est, et je vous le redis, c'est que Dieu laisse une certaine latitude à l'adversaire dans le monde sans pour autant en perdre le contrôle. Et cela est vrai aussi pour nos propres vies. Je sais également ce que désire Dieu, c'est nous faire confiance comme il l'a fait pour Job, qu'il soit fier de nous comme il l'était pour Job. Fier que nous restions ses témoins même au travers de l'épreuve, que nous ne succombions pas à la tentation incarnée par sa femme, maudire Dieu, c'est-à-dire le renier. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des super-hommes ou des super-femmes, car il sait que nous pouvons être troublés en nous-mêmes. D'ailleurs, Job lui-même, tout exemple qu'il était, comme l'indique le verset 10 du chapitre 2, Job a aussi pu dire, alors je vais vous lire différents versets au chapitre 3, chapitre 3 de Job, voilà. Alors chapitre 3, versets 1 et 4. Après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant, qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Voilà. Ensuite, au verset 11 à 16. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter ? En effet, maintenant je suis couché tranquille, je serai couché tranquille, je dormirai en ce moment en plein repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine, avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient l'argent de leur maison. Ou bien, comme l'enfant mort-né qui est resté caché, je n'existerai pas, pareil aux tout-petits qui n'ont pas vu la lumière. Et les versets 24-26. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse. Ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni la tranquillité, ni la paix, ni le repos. C'est la tourmente qui survient. Voilà. Donc Job, comme nous, peut fléchir malgré son intégrité. En plus de l'exemple de Job, que je viens de citer, je vous conseille également de relire les psaumes, nous dépeignant de façon parfois pathétique les états d'âme, les gémissements, les plaintes, les questionnements et même parfois les reproches faits à Dieu suite à des épreuves que leurs auteurs doivent traverser. Parmi ces psaumes, je vous conseille de lire le psaume 42, qui est un poème des fils de Corée intitulé « L'espérance en Dieu ». La Bible nous montre donc des exemples tout humains, des gens tout à fait normaux, qui ont aussi, comme nous, peut-être eu à souffrir parfois terriblement d'épreuves dont ils ont été frappés. Quand l'épreuve vous frappe, frères et sœurs, Je vous conseille donc, comme je viens de le dire, de lire des psaumes pour vous identifier à leurs auteurs qui ont aussi souffert et savoir que nous ne sommes pas les seuls à souffrir et surtout savoir que quelqu'un nous comprend dans nos souffrances, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, chapitre 2, verset 18. Cela est bien rassurant. Maintenant, frères et sœurs, je peux vous dire en toute humilité que je suis bien placé pour vous parler des souffrances, de l'épreuve en général, car personnellement, j'ai eu à en affronter de très graves dans ma vie, des souffrances surtout psychologiques de la part de ma famille et même, hélas, de la part de chrétiens. Et actuellement, je côtoie de nombreuses personnes qui doivent faire face à des souffrances aussi bien à l'Église que dans mon entourage. À toutes ces personnes, je dis de prendre exemple sur Job, de lire et relire les réponses qu'il donne au verset 21 du chapitre 1 et au verset 10 du chapitre 2. Si tu veux les mettre, verset 21 du chapitre 1 et 10 du chapitre 2. Alors, voilà. Job a dit, donc, comme tout à l'heure nous l'avons lu, « Nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et l'autre. Alors, mais il lui répondit, et Job répondit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Voilà deux versets très très forts vis-à-vis de la souffrance. Voilà. Mais aussi, les personnes qui souffrent, qu'elles sachent que 1 Corinthiens 10, 13 est toujours pleinement la vérité pour nous. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces et de nos capacités, et il donne toujours le moyen de s'en sortir. N'a-t-il pas dit qu'il était fidèle et demeurait toujours avec nous? Mettons donc notre confiance en lui, sachant que lui aussi désire mettre la sienne en nous et être fier de nous, ses serviteurs. À présent, je vais terminer cette étude en faisant la synthèse de tout ce que je viens de vous dire par des petites phrases à propos de l'origine de la souffrance de Job, ça va être plus clair, a subi comme épreuve. Voilà, je vais résumer, ça va être plus clair comme ça. Alors, la souffrance de Job est le résultat d'un enjeu entre Dieu et Satan. Satan n'est qu'une créature parmi d'autres. Dieu est et reste le maître absolu de l'univers. Il est le bien opposé au mal, le seul créateur et le seul seigneur au monde. À propos de Satan, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Notre divin sauveur est toujours au milieu des deux ou trois qui s'assemblent en son nom. Satan accuse Dieu de ne pas être très honnête dans son procès. Le Dieu d'amour ne serait pas digne d'être aimé pour lui-même, mais seulement pour ce qu'il donne, et le Dieu de vérité tricherait dans ses affirmations, d'après Satan. Si nous aimons Dieu que de manière intéressée, comme Satan semble insinuer que Job l'ait fait, alors nous jouons purement et simplement le jeu de l'adversaire. Il y a un décalage significatif entre ce que le diable demandait et ce qu'il obtient. Dieu confie son honneur aux mains fragiles de son serviteur qui deviendra le champion de sa gloire face aux hommes, aux anges et aux démons. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous pourrions supporter, et ça, c'est une assurance lorsque nous souffrons. La gloire de Dieu est ici engagée, et c'est un homme qui tient cette gloire dans ses mains, quoi qu'il n'en sache rien. Par amour pour nous, Le Sauveur a pris non seulement nos angoisses, mais aussi nos péchés sur lui et les a expiés à notre place. Le pouvoir de Satan est strictement limité par la toute-puissance divine. Pour l'adversaire, une piété gratuite est impensable. Job aura tout eu comme épreuve, matérielle, affective, physique, psychologique. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Nous ne le savons pas, car nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Dieu laisse une certaine latitude à l'adversaire dans le monde sans pour autant en perdre le contrôle. Dieu désire nous faire confiance comme il l'a fait pour Job. Quand l'épreuve nous frappe, lire les psaumes pour nous identifier à leurs auteurs qui ont aussi souffert. Enfin, sachant que quelqu'un nous comprend dans nos souffrances, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, ayant tout été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mettons donc notre confiance en lui, mais aussi n'oublions pas la réaction de Job à travers ses réponses au verset 21 chapitre 1 et 10 verset 10 chapitre 2. Voilà pour ce qui est des richesses contenues dans cette partie du livre de Job concernant la souffrance. À présent, je vais prier pour terminer. Seigneur, je te loue de ce que, tel un père rempli de sagesse, tu permets que des événements douloureux se produisent dans notre vie, dans l'objectif de nous instruire et de nous faire grandir. Seigneur, fais que nous grandissions en maturité, en reconnaissant que notre vraie richesse se trouve dans ton amour que tu poses sur nous. Amen.